Elle soupire de soulagement. Ce mot unique la réconforte mieux qu'un long discours d'explication. Si cet homme a tout entendu, il a aussi tout compris. Il ne cautionne pas pour Irène et Mathieu. C'est vrai, il est le cousin de ce pauvre Bruno. Elle se sent moins seule et se trouve moins bête. Elle sourit, un peu rassurée. Il parle sans s'arrêter. Cela lui demande un certain effort. Parfois le souffle vient à manquer. Elle doit se pencher tout près de sa tête, de son sifflet de voix, pour comprendre mieux. C'est précieux pour lui, elle le sent au choix des termes, au poids des mots. Il tombe de sa bouche meurtrie. Chaque phrase est à chaque fois une blessure et un soulagement. Cette charge trop lourde portée depuis trop longtemps, il se décide enfin à la déposer là, à ses pieds, une offrande vaguement empoisonnée. Il le reconnaît bien volontiers. C'est délicat. Cela fait des années qu'il apprivoise la mort. Des années pour rien. Elle s'échappe insaisissable. Il se contente d'y penser, de l'envisager, d'imaginer qu'il saura déchiffrer sa mélodie s'il l'entend. En vain. La mort le nargue, se moque, elle le fuit. Il murmure à présent si bas. Elle se penche davantage, pour ne rien manquer de ses mots, pour bien tout recueillir. C'était pourtant si simple de mourir là-bas, au front. Il n'a même pas réussi ça. Il a réussi quoi, d'ailleurs? Il souffle péniblement. Avoir survécu a suffi à faire de lui un brave. Quel héros en fauteuil. Inutile. Les premiers mois du conflit, il était resté à l'arrière. On n'avait pas jugé nécessaire d'envoyer en première ligne un musicien, un artiste. En apparence seulement, il était devenu soldat. Il portait l'uniforme complet. Le pantalon garance, la capote bleue, le képi bleu et rouge, les jambières, les brodequins, le havresac. Il avait envoyé une photographie à Alexandrine. Il s'était trouvé beau. Elle lui avait écrit qu'elle l'avait fait encadrer. Chaque soir avant de s'endormir, elle contemplait son portrait glorieux en priant pour lui. Il avait appris à marcher au pas, à charger un lebel, à porter un barda. Après les exercices, il se sentait isolé au milieu des autres. Il ne lui ressemblait pas, il ne l'intéressait pas. Privé de son piano, il avait rempli son monde intérieur d'une musique que lui seul entendait. Elle occupait tout l'espace libre. Il y en a eu beaucoup pendant ces longues classes inintéressantes. Quand il repense à cette période, il se dit qu'il vivait replié sur lui-même, seul, avec sa musique intérieure. Il se dit qu'en fait, il était bien. Puis les hommes avaient commencé à tomber, à manquer. Du front, on avait exigé davantage de soldats, de renforts, de main-d'œuvre. Autant de mots prononcés avec rancœur. Sa bouche dégouline, il voudrait ne pas le dire. Il le souffle, résigné, de la chair à canon. Été 1916, tout le monde dans la Somme, musicien ou pas, en première ligne, avec tant d'autres, agriculteurs, ouvriers, instituteurs, bouchers, vendeurs de couteaux, tous en âge d'aller mourir pour la France. Il se souvient d'eux, debout comme lui, dans la tranchée avant l'assaut, ensemble et seuls. Personne ne se regardait, personne ne se parlait. Il se souvient avoir pensé, chacun tourné vers sa musique intérieure. En fait de musique, les cris du sergent. Il aboyait sur tout le monde pour éviter de réfléchir à ce qu'il leur demandait. Certains buvaient, certains priaient avant de monter à l'échelle, avant de quitter la tranchée. Lui fermait les yeux et invoquait des symphonies, des concertos, des mélodies de sa composition, mais cela